Oscar Huguenin, Nos vieilles gens, l'apprenti tailleur. Chapitre 9. Assis sur un petit escabeau à trois jambes, à côté de l'âtre, l'ex-apprenti tailleur surveillait la cuisson de son lait, tout en s'occupant à ciseler au couteau une racine de merisier curieusement contournée. Il se leva précipitamment à notre entrée. Comme il allait fourrer dans la poche de sa carmagnole en loques la racine de merisier, je la lui pris des mains malgré sa résistance. « Montre voir, André, ce que tu chapuses là. » « Une tête de pipe, » fit-il en rougissant et glissant un regard intimidé vers ma mère qui, essoufflée par la marche, avait pris place sur l'escabeau. « Mais c'est Bloom !» m'écriai-je émerveillée. « C'est Bloom tout pique, ma parole. Regarde-moi voir ce nez en bec de corbin, ces gros yeux de chat huant, cette barbiche de boc. » Je tendis l'objet à ma mère, dont la figure exprima aussitôt un étonnement admiratif. « Ah ça !» fit-elle en se tournant vers André. « Qui t'a appris ?» Mais André, qui n'avait pas cessé d'avoir l'œil sur son lait, venait de fondre sur la poêle à haute jambe et l'enlevait à bout de bras par sa longue queue. Ce ne fut qu'après avoir versé avec précaution le liquide bouillant dans son pot d'étain qu'il répondit en haussant les épaules. « Qui m'a appris à faire des choses comme ça ? Oh, personne ! Ça m'amuse, voilà !» Mon regard allait avec un véritable respect du pauvre garçon hâve et chétif au morceau de bois si habilement ciselé par ses mains. Et je m'avisai alors, en le voyant rassembler prestement les tisons sous le coquemar suspendu à la crémaillère, qu'André avait des doigts longs et effilés comme ceux de mon père. Les miens, que je regardais instinctivement, étaient courts, épais et carrés du bout. J'avais hérité des mains de ma mère. Après tout cela, nous oublions les uns les autres le maître du logis. Il ne tarda pas à signaler son existence en lançant à l'adresse de son ordonnance un appel impératif, accompagné d'un de ses véritables jurons de soldat. Il avait entendu le bruit de notre conversation et voulait savoir, crée mille gargousses, ce qu'on complotait par cette cuisine. « Montez, madame, excusez, j'oubliais de vous dire d'entrer. » s'exclama l'apprenti en se précipitant pour ouvrir la porte de la chambre, puis s'effaçant avec politesse pour laisser passer ma mère. Je la suivis, chargée du panier, tandis qu'André, sans doute par discrétion, retournait à sa besogne de cuisinier. À sa place, je n'aurais pas manqué d'entrer aussi, pour écouter la conversation et voir ce qui allait sortir de ce panier, soigneusement couvert d'un mouchoir de poche à carreaux bleus et rouges. C'est que les dures leçons de l'adversité ne m'avaient pas appris, comme Alex apprenti, à me tenir modestement effacée. Trop souvent, il fallait qu'un mot sévère de ma mère, un signe de tête et un regard mécontent de mon père vinssent me remettre à ma place. Je fus tout surpris de voir que le vieux Soubise savait à l'occasion prendre un ton tout différent de celui que je lui connaissais. Il accueillit ma mère avec une déférence marquée, et en faisant une courbette aussi profonde qu'on peut l'exécuter du fond d'un fauteuil et avec des articulations enraidies. « Madame Vieumier, j'ai bien l'avantage de vous présenter mes respects. Pas moyen de me lever pour vous rendre l'honneur que je vous dois. Sacré rhumatisme. Faites excuse, le mot m'a échappé. Les vieux soldats, vous savez. Faites-moi la grâce de vous asseoir, madame. » Il ne m'avait pas aperçu d'abord, la chambre étant assez mal éclairée par une petite lampe de fer placée près de lui sur la table. En me voyant sortir de l'ombre, moi et mon panier, il m'interpella jovialement. « Ah, tu es là aussi, mon garçon. Pose-moi ce fourniment et campe-toi sur une chaise, un tabouret, n'importe ce que tu trouveras. Savez-vous, madame, que ce jeune conscrit-là m'a tiré une fameuse épine du pied en me fournissant un planton. Vous savez ce que je veux dire, celui qui fricote là, à la cuisine, et qui s'y entend mille... ne faites pas attention, madame, la langue m'a fourché. Je vous réponds que celui-là... » Ici, le vieux soldat mit sa main en paravent près de sa bouche et baissa la voix. « Je ne voudrais pas qu'il entende, parce qu'il faut maintenir la discipline. Mais je vous réponds que c'est André à de l'œil, et de l'idée, et de la tenue. » Ma mère écoutait attentivement, en approuvant de temps à autre d'un signe de tête. « Bon, fit-elle enfin, ça me fait plaisir que ce garçon que vous avez ramassé vous contente. Justement, vous comprenez bien, monsieur Gentil, que c'est par rapport à lui que je suis venue. » Tout en parlant, elle attira à elle le panier que j'avais posé entre nous. « Charles-Auguste, va un moment tenir compagnie à André. » Sans doute, ma mère voulait entretenir le père Soubise de l'avenir de notre protégé, et elle estimait que j'étais de trop dans la conversation. C'était assez mortifiant pour un jeune homme aussi pénétré de son importance que je l'étais. Aussi fût-ce d'un air de dignité offensée que je repris le chemin de la cuisine. Cependant, la vue d'André, qui, ayant terminé sa besogne de cuisinier, avait repris sa pipe et son couteau, et parachevait l'image de son ex-patron, me fit oublier mon dépit. J'allais m'asseoir sur le bord de l'âtre pour le voir opérer. Quelle dextérité dans ses longs doigts maigres! Quel parti merveilleux il tirait de ce couteau minable, à la lame non pas ébréchée, mais usée par des aiguisages répétés. Au fait, il valait mieux que sa mine, le vénérable instrument, et il devait avoir été passé fraîchement sur la meule, à voir la façon dont sa pointe mordait dans la face grimaçante de Bloom. « Il coupe ton couteau, bigre. » André fit un signe de tête affirmatif, et dit, tout en éloignant son travail et le retournant entre ses doigts pour le considérer sous toutes ses faces, « C'est celui de Monsieur Gentil. Avec le mien, je n'y arrivais plus. » Et il se remit avec ardeur à fouiller de la pointe du couteau les traits de son ex-maître. « Ne va pas le gâter, au moins, » fis-je avec appréhension. « Tu trouves qu'il n'est pas fini ?»« Non, il n'a pas l'air assez mauvais. » L'apprenti avait dit cela d'un ton de rancune implacable, pendant que sa figure, pâle et maigre, s'assombrissait au souvenir des brutalités endurées. « À propos, savais-tu qu'il a décampé ?» André releva brusquement la tête. « Lui ? » s'exclama-t-il. « Et sa femme ? » Il l'a planté là. Ça ne m'étonne pas, fit André entre ses dents. Et c'est tant mieux pour elle, ajouta-t-il avec un haussement d'épaule. Il lui en faisait autant qu'à moi, du matin au soir, surtout quand elle prenait mon parti. Si ce n'avait pas été pour la laisser seule avec lui, il y a beau temps que je me serais sauvée. Ma mère, arrivant sur ses entrefaites, le panier vide à la main, interrompit notre conversation. « J'ai retardé votre souper, » dit-elle à André. « Portez-le vite dedans. Monsieur Gentil doit avoir faim. Au revoir, mon garçon. Continue à bien le soigner. C'est un brave homme. »
Quand nous fûmes dehors,
« Écoute, » dit ma mère en me tendant le panier, « tu peux retourner à la maison. Moi, je vais jusque chez Bloom. Tu le diras à ton père. »
J'étais, je l'avoue, un peu poltron. La nuit était tout à fait tombée, et la perspective de regagner le logis seul ne me souriait guère. Ce contour des chaiseaux, sans une seule maison, me paraissait dans l'obscurité un espace redoutable à franchir. Notez qu'il n'y avait guère plus de 100 pas jusqu'à la première maison du Cré.
Aussi demandai-je d'un ton câlin, « Est-ce que je pourrais pas aller avec ?»«
Fais ce qu'on te dit, » répliqua ma mère sèchement. Puis elle ajouta d'un ton légèrement moqueur,
« As-tu peur, par exemple, de t'en retourner seule, parce qu'il fait nuit? Ce serait une belle vergogne, à ton âge. »
Vexée d'avoir été si bien devinée, je partis sans rien répondre, et quand je fus sûre que ma mère ne pouvait plus me voir, je pris le pas de course pour franchir l'espace désert, semé par mon imagination d'embûches mystérieuses. Ma mère rentra une demi-heure après moi. L'occasion me parut favorable pour esquiver une troisième partie de dames que nous allions entamer avec la tante Julie. Elle ne voyait rien au-dessus de ce jeu, que pour ma part, j'abominais. Aussi quittai-je ma place avec empressement, en repoussant le damier et déclarant que j'en avais assez. Habituée à mes façons d'agir, Ma pauvre tante Julie réprima un soupir et serra docilement les dames dans la rainure en forme de tiroir pratiquée au bord du jeu. J'avais compté que ma mère allait faire part à son mari de l'entretien qu'elle avait eu avec le vieux Soubise et parler de sa visite à la femme du tailleur. Mon calcul fut déjoué. Puisque Charles-Auguste n'a plus goût à jouer, fit tranquillement mon père, en mettant de côté le vieux bouquin qu'il lisait, il vaut mieux qu'il aille au lit. Tu ne trouves pas, Henriette ? Hélas, ma mère, à qui mon petit manège égoïste n'avait pas plus échappé qu'à son mari, ratifia la sentence de la façon la plus explicite du monde. Elle ouvrit le placard, où on serrait le pain, et en coupa une tranche qu'elle me tendit en disant « Voilà ton pousse-nion. Si tu as soif, il y a de l'eau à la cuisine. » Il n'y avait rien à répliquer. La bonne tante Julie, elle-même, qui n'eut pas mieux demandé que d'intercéder en faveur de son neveu, mais qui savait bien que pareille tentative serait inutile, se contenta de me regarder d'un air de tendre pitié pendant que j'avalais mon pain comme une médecine amère. Et elle va sans dire que je me considérais comme la victime de la plus criante injustice et que le « bonne nuit » que je grommelais en me retirant ressemblait plus à un grognement qu'à une salutation. Pour compléter ma déconfiture, j'eus la mortification d'entendre, de la cuisine où je m'arrêtais pour boire une lampée d'eau, ma mère dire, sans mettre une sourdine à sa voix, « Non, non, rien de ça. Ce garçon a besoin qu'on lui apprenne à avoir des égards pour les autres. Il ne pense qu'à lui. » Sans doute c'était ma brave tante Julie qui avait tenté d'intercéder en ma faveur, car mon père ajouta, « L'Henriette a raison. Un neveu doit le respect à sa tante comme à ses pères et mères. Charles-Auguste ne se gêne rien avec vous, parce que vous êtes bien trop bonne. » Eh oui, la tante Julie était bien trop bonne pour son ingrat de neveu. Qui est-ce qui vint en tapinois, quand je fus fourré entre mes draps, mettre sur mon front un baiser furtif que j'aurais dû prendre avec gratitude pour un généreux gage de pardon, mais que je considérais comme une amende honorable? Qui donc, si ce n'est la tante Julie ?